Bonjour Benjamin Epps.
Bonjour, comment ça va?
Ça va et toi?
Ça va très bien.
Je m'appelle Thomas, enchanté, bienvenue sur Énergie.
Merci.
Dans quelques instants, tu vas rentrer en stase, c'est-à-dire qu'autour de toi, le temps va s'arrêter. Mais avant, il faut passer par une étape importante, c'est la rétrospective. 30 secondes durant lesquelles je vais te poser des questions sur des moments clés de ta vie. Les horloges s'arrêteront ensuite de tourner et nous pourrons démarrer la discussion. Est-ce que tu es prêt?
Let's go.
Benjamin, ta date de naissance?
9 avril 1996.
La ville où tu as grandi?
Libreville, Gabon.
L'endroit préféré de ton enfance?
Bellevue.
L'âge auquel tu as commencé le rap?
10 ans.
L'artiste qui t'a le plus inspiré?
Nas.
Ton premier succès?
Fantôme avec chauffeur.
Le nom d'un titre que tu n'as jamais sorti?
Sarkozy en 2007.
Le plus beau moment de ta carrière?
Mon premier album.
On passe en stase. Benjamin Epps, au cours de ce podcast, on va voyager d'abord dans ton présent, ensuite on ira dans ton passé, enfin dans ton futur. Est-ce que tu aimerais avoir ce pouvoir d'arrêter le temps?
Je sais pas si c'est quelque chose qui m'enchanterait.
Pourquoi?
Ça mettrait plein de choses en perspective.
Comme quoi?
Comme mon fils ne grandirait jamais, on maturera sûrement, sans doute jamais, on restera bloqué dans un espace-temps qui est figé. Je sais pas, j'y ai jamais vraiment réfléchi, mais ça met plein de choses en perspective.
T'es le tout premier invité, dès que je pose cette question aux autres invités que je reçois, tout de suite ils sautent dessus, ils disent « Ah bah oui, j'aimerais tellement en profiter, le temps passe tellement vite, je suis tellement occupé, j'aimerais profiter plus de mes amis, de ma famille. » Et toi, ta première remarque, ça a été sur ton fils.
Ouais.
Tu dis « Il va pas pouvoir grandir. »
Bah non, il y a tellement de choses à voir, tellement de choses à découvrir. Il a 4 ans et il peut pas avoir 4 ans pour toujours, tu vois.
Bien sûr, et j'imagine que dans plusieurs années, tu vas te dire, il a grandi tellement vite.
J'espère pas. J'espère prendre le temps, vraiment prendre du temps avec lui, pouvoir être là, pouvoir être un père.
Les deux parties de ton album, L'Enfant Sacré de Bellevue, sont enfin sorties. La première partie fin janvier, la seconde le 6 juin.
Ouais.
Avant de parler des morceaux en eux-mêmes, ce que j'ai énormément aimé de ces albums, ce sont les instrus.
Ah, merci.
Elles étaient déjà très bonnes en fait dans tes projets précédents.
Ouais.
Donc moi j'aimerais qu'on en touche un mot et j'aimerais que tu me présentes un peu l'équipe qui travaille avec toi.
Je travaille avec un jeune gars qui s'appelle Mozarf. On est ensemble au quotidien parce que c'est mon DJ aussi. Il est sur ma tournée, donc il m'accompagne tout le temps. On bosse ensemble et comme on est ensemble tout le temps, on écoute les mêmes musiques, on compose ensemble. Parce que la plupart du temps, la différence entre ces projets-là, ces deux volumes-là et les projets précédents, c'est qu'il n'y avait pas de... Comment dire, j'étais pas forcément avec les compositeurs. Alors que là, je suis vraiment avec le mec qui compose l'essentiel de l'album. On est ensemble, on passe du temps ensemble, on chill ensemble. Donc vraiment, on ressent cette alchimie-là sur les projets, quoi.
Ouais, on l'entend effectivement, ouais. Dans des prods de très très bonne qualité.
Merci. Hein.
Et puis à chaque fois, en plus, elles sont hyper variées. On est plongé dans un univers à chaque titre. J'imagine que c'est ce que tu cherchais.
Exactement, c'était l'objectif, tu vois. Je trouve que même pour l'évolution musicale, il faut que, en restant toujours toi-même, en restant fidèle à toi-même, je pense que c'est parfois intéressant d'explorer autre chose. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire sur ces deux volumes-là, diversifier un peu les thèmes, diversifier les musiques. Et je pense qu'on a, le résultat est assez bien réussi.
Puisqu'on parle du présent, on parle d'actu, et il faut que l'on parle du morceau Anti.
Yes.
C'est le premier extrait que tu as sorti de la partie 2.
Yes.
Sombre, très imprégné de l'époque dans laquelle on vit.
Mmh.
Alors, au-delà de toutes les crises qu'on traverse, les guerres, je trouve aussi ce qui ressort de ce titre, c'est évidemment la violence infusée dans notre quotidien et surtout la fracture entre les hommes qui n'ont plus l'air de supporter. Toi, comment tu vis ça en tant qu'individu?
C'est assez difficile. Parce que, encore une fois, bon, je ramène tout à mon fils, mais tu vois, j'élève un petit garçon. J'ai besoin de l'élever sereinement, tu vois. Alors que là... Depuis quelques temps, je suis pas serein. Après, c'est vrai que je dépeins quand même quelque chose d'assez négatif dans le morceau, mais tout n'est pas aussi sombre, tu vois. Il y a quand même encore une petite lueur d'espoir. Il y a des gens qui font bien les choses, il faut le faire remarquer aussi. Mais voilà, la télé, il y a un truc un peu anxiogène comme ça autour de nous. Tu as parlé des crises, des guerres, j'en parle dans le morceau. Je pense que voilà, c'est pas positif. Et même pour le moral, tu vois, c'est pas positif. Les gens, quand ils sortent, ils sont totalement déchaînés parce que la plupart du temps, ils sont comme recroquevillés sur eux-mêmes. Ils arrivent pas à se défouler. Donc, la première occasion qu'ils ont de sortir, tu vois, ça explose. On l'a vu encore avant-hier avec les festivités de, tu vois, la finale de la Ligue des Champions. D'ailleurs, félicitations à tous mes Parisiens. Tu vois, donc, je pense que je pense qu'on vit un moment difficile et il faut pouvoir garder la tête froide et pas tomber dans les raccourcis, quoi.
Tu dis, je ramène toi mon fils, mais c'est quand même intéressant. Tu m'as dit qu'il avait 4 ans. Il va avoir 5 ans cette année ou
il a pris 4 ans, là.
Donc, 2021.
C'est ça.
Quand t'as su que t'allais être papa, est-ce que justement ça a changé ta perspective des choses?
Totalement. Totalement. Mais ça s'entend dans mon premier album. Tout à l'heure, tu me disais l'album dont t'es le plus fier. Je disais mon premier album parce que c'est un album qui a été très, très contesté, tu vois. L'un de mes regrets, c'est comment il a été reçu. Parce que les thèmes étaient différents, c'était moins ego trip. Et tu vois, ma position de papa, c'est comme s'il y avait dans ma nouvelle position de papa, il y avait un truc de tu peux plus juste chanter ça, tu vois. Il faut que ce que tu chantes soit adapté à ta réalité. Et ma nouvelle réalité, c'était changer les couches, pouvoir être à la maison quand tu finis les concerts, pouvoir rentrer à la maison le plus vite possible, pouvoir prendre soin des tiens, tu vois. Donc ouais, il y a un truc de ça quand même, ça m'a quand même bousculé, quoi.
Il y a des passages très intéressants dans ce morceau. Tu dis notamment, je sais, c'est hypocrite de penser que 3 minutes et quelques phrases bien écrites vont changer les choses. Et un peu plus tard, hein, tu dis, ce que je veux, c'est qu'on m'exempte de cette pression. Je ne suis qu'un rappeur, je ne suis pas ton exemple. Est-ce que tu peux me parler de cette pression?
Ouais, je trouve que, tu vois, on donne aux gens des médias un certain pouvoir qu'en réalité, ils n'ont pas. Quand je dis gens des médias, je parle de toi, journaliste. Je parle de moi, artiste. On a tendance à nous donner, tu vois, sur Internet, je vois les fans, les auditeurs qui disent pourquoi tu parles pas de ça, pourquoi on t'entend pas sur ça, et pas que pour moi, pour plein d'artistes, tu vois. Donc il y a une pression sur nous. Et moi, ce que je réponds toujours, c'est la meilleure réponse qu'un artiste puisse donner, c'est en musique, premièrement, et qu'il y a des gens qui ont le réel pouvoir de changer les choses. Nous, on peut faire des constats. On peut faire des cagnottes, on peut aider avec du bien, tu vois, matériel. Mais dans les faits, ça va être difficile de changer la vie des gens. Il y a des gens qui ont un vrai pouvoir de décision, tu vois. Donc nous, on pousse un peu à notre niveau, mais on peut pas faire plus que ça. Donc il y a une certaine pression sur nous. Et je dis, moi, je ne suis qu'un rappeur. La pression ne devrait pas être sur moi, elle devrait être sur les gens qui nous dirigent, tu
vois. Il y a quelque chose qui revient régulièrement dans tes morceaux, c'est le fait de ne pas être libre. Il est temps que je m'éveille, que je sorte de mes fers, dans Anti toujours, mais il y a aussi le titre Malaise. On retrouve aussi cette idée dans Let Go, libère-moi de ce piège, je suis dans les chaînes, mais elles sont dans ma tête. T'as fait un feat avec MC Solar aussi qui s'appelle Libre, oui. On le retrouve dans l'album La Grande Désillusion. Qu'est-ce qui t'emprisonne?
C'est l'époque. Je me rends compte que je passe beaucoup de temps sur mon portable. Tu vois, des fois je me lève le matin et first thing first le matin, première chose, je prends mon portable, je vais sur les réseaux. Je veux être à l'affût de l'actualité, tu vois. Et même si je sais que ça va m'énerver et tout, mais il y a comme ce besoin-là. Et je pense qu'on devient un peu esclave de ça. Il y a l'ego aussi, tu vois, le truc de je veux être le meilleur. Tu vois, tu es toujours en compétition avec les autres, alors que on a tellement de choses à changer déjà nous dans nos habitudes, tu vois. Et tu vois toutes ces choses-là, je trouve qu'elles nous empêchent de comment dire, elles nous enferment dans quelque chose. Et c'est en ça que je pense qu'on n'est pas totalement libre. Alors moi, quand je dis libre, c'est libre de plein de choses. C'est libre de pouvoir composer. Il y a plein d'artistes qui n'ont pas cette liberté-là. Moi, je suis un artiste indépendant, tu vois. Je travaille avec des gens qui distribuent ma musique. Et j'ai encore le soin de choisir de quoi est-ce que je vais parler dans ma musique, tu vois. Donc, il y a toutes ces choses-là. Il y a aussi pouvoir voyager, pouvoir vivre pleinement de ma musique, tu vois. C'est plein de choses auxquelles j'aspire. Et qui pour l'instant ne sont pas encore, c'est des cases qui sont pas encore cochées, tu vois.
Est-ce que ça a été ça aussi la grande désillusion, c'est de découvrir l'époque dans laquelle on vit?
Totalement. L'époque dans laquelle on vit, le business dans lequel je suis. Finalement, tout n'est pas tout rose. C'est pas que les morceaux, que les passages en radio. Il y a tout le backstage de tout ça, tu vois. Il y a des tensions, l'ego des gens. Il y a des gens qui sont pas honnêtes. Et donc. La grande désillusion, tu vois, c'est aussi tout ça. Ouais.
Et à l'inverse, qu'est-ce qui pourrait te permettre de te libérer?
C'est de pouvoir vivre décemment ma musique, ce que j'arrive à faire. À mon avis, je peux, ça peut être encore mieux. C'est de pouvoir éduquer pleinement mon fils, lui donner les valeurs que mes parents m'ont données, que ma mère m'a transmis. Faire moins parler mon ego aussi. Être un peu plus à l'écoute des autres et être un peu moins sur la défensive. L'impression que ce que les autres disent n'est pas forcément bon, ce que moi je dis, c'est, tu vois, il y a plein de petites choses que j'ai à régler avec moi-même, et je pense que quand t'es de ce moment-là, je me serais libéré de plein de choses.
Ce qui est dingue, parce qu'on t'a notamment connu sur le registre de l'ego trip.
Exact, tu vois, il y a ce truc-là de, moi je le vois, je le sens, dès qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon sens, tu vois, je sens monter quelque chose. Mais après, des fois, j'ai suffisamment de recul pour me dire, en fait, c'est pas grave, parce que aujourd'hui, ça va pas dans ton sens, mais demain, peut-être que, tu vois, peut-être que ça le fera et j'apprends à vivre avec. Mais tu vois, c'est, je pense que ça aussi, ça vient avec l'âge. C'est ça, la maturité. C'est apprendre que, bah, on n'est pas seul. Quand tu bosses avec des gens, tu dois pouvoir faire des concessions sur plein de choses, tu vois, et tout ça, c'est des choses qui nous enferment.
Benjamin, il est temps d'explorer ton passé.
Yes.
Qu'est-ce qui fait de toi un enfant sacré ?
Bonne question. Qu'est-ce qui fait de moi un enfant sacré ? C'est que je sois le dernier de la fratrie et que plein de gens comptent sur moi et que plein de gens mettent beaucoup, beaucoup d'espoir sur moi.
Grosse pression.
Très, très grosse pression. Mais du coup, c'est une bonne pression, tu vois. Ça veut dire qu'il y a des gens qui m'aiment, qui veulent le meilleur et qui pensent que je peux arriver à faire des choses, de grandes choses.
Tu es né dans le quartier du Dragon, à Libreville, au Gabon. Mmh. Ta famille s'est ensuite installée à Bellevue. Alors, quel souvenir t'associe à ce quartier ?
Bellevue, la solidarité, la joie, beaucoup de joie. Tu vois, quand j'étais petit, j'ai même pas le sentiment d'avoir vécu la misère. Parce que tout le monde sourit tout le temps, tout le monde, tu vois, on vit pleinement le truc. Et c'est seulement en grandissant que tu comprends, ah ok, en fait, maman, elle gagnait pas beaucoup, mais on l'a jamais vue comme ça, parce qu'elle s'arrangeait à ce qu'on mange toujours, s'arrangeait à ce qu'on soit toujours bien habillé, tu vois. Et non, Bellevue, je garde de très très bons souvenirs.
Tu l'as dit, tu es le dernier de la fratrie. 3 grands frères et 2 sœurs. Mmh. C'est une position spéciale quand tu es le dernier garçon. Mmh. C'est ce que tu dis dans Nakata Interlude. Je crois que tu y as un peu répondu. Hein. J'allais te dire en quoi c'est spécial. Mais cette fameuse pression sur les épaules.
Exact, exact. Ouais.
C'est d'ailleurs avec eux, tes frères, hein, que tu as commencé à t'intéresser au rap. Cam, le frère aîné, en faisait. Mmh. Ça y est, Bourbon aussi.
Ça y est, Bourbon aussi, exactement. Ouais. Cam, il a passé 4 ans ici, en France. Il a fait le collège, je crois, et quand il est rentré au Gabon, bah, avec toute la culture qu'il a pu amasser ici, les cassettes VHS à l'époque, les magazines, RER, Radical et tout ça, bah, quand il est rentré avec ça, bah, ça nous a influencé tout simplement, quoi. Il a emmené ce petit truc-là dont on manquait, parce qu'on avait, on regardait ça à la télé, mais nous, avec lui, on a eu l'impression de vivre la chose, quoi.
Pour revenir à cette idée de pression, là aussi, pression, parce que tu te mets au rap. Là, tu dis, il faut que je sois au même niveau que mes grands frères.
Exact. Il faut que je fasse mieux.
Il faut que je fasse mieux,
que
même.
Je fasse mieux, parce que, comme tu disais, c'est des grands frères qui rappent. Et Cam, le frère aîné, il est assez célèbre quand même à Libreville, au Gabon, tu vois. Donc, il y avait un truc de... Moi, ma prétention, c'était pas la France ou l'international, tu vois, c'était le Gabon. Pour moi, je voulais faire mieux qu'eux, être plus connu qu'eux, mais au Gabon. Et là, il y a un truc de... La réalité a dépassé toutes mes espérances et toutes les espérances de la famille, tu vois. On m'écoute ici, on m'écoute... moi, je regarde mon Spotify, souvent, les gens qui écoutent au Sénégal, en Belgique, en Suisse, aux États-Unis, au Canada, c'est juste magique.
Et qu'est-ce que te disent tes frères ?
Ils sont fiers. Ils vivent le rêve à travers moi. Mais du coup, c'est sain parce que ils aiment me voir gagner, tu vois. Il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de jalousie, Ah, c'est mon petit frère, tu vois, et ça change tout, je pense.
Faut qu'on parle aussi de ta maman.
Yes.
Elle t'a élevé seule. Mm. Alors, quelle est ta relation avec elle ?
C'est particulier, parce que j'étais le dernier à la maison. J'étais un peu celui qui était très, très protégé, tu vois. C'est une femme forte, hein. Ma mère est née dans l'arrière-pays. Et elle est arrivée à Libreville, à la capitale, pour chercher du boulot. C'est comme ça qu'elle a rencontré mon père. Et elle vient d'une famille pauvre aussi. Elle a quand même réussi à finir infirmière. Tu vois, donc c'est une femme qui s'est battue toute sa vie. Et la relation est... Tu vois, on s'appelle tous les jours. Elle vit au Gabon, à Libreville. J'ai réussi à la faire venir souvent. Donc la relation est... C'est une vraie relation mère-fils, quoi.
On te sent marqué, hein, tout de même, hein, par l'absence du père. Hein. Mmh. Dans Le Dernier Garçon, tous les garçons ont besoin d'un père, d'un guide. Comment t'as vécu cette absence ? Est-ce que tu t'es senti souvent perdu en grandissant ?
Non, mais en devenant père, j'ai compris qu'il me manquait des outils. En grandissant, j'avais mes frères. Donc, il y avait le truc de... J'avais mes frères et j'avais la maman qui était là et qui faisait un peu de tampon, quoi. Tu ne t'en rends pas vraiment compte jusqu'à ce que tu deviennes toi-même père et que tu constates qu'il y a des trucs qui te manquent, il y a des réflexes que tu n'as pas, il y a des outils que tu n'as pas pour gérer les situations au quotidien. Et c'est en ça que ça a été C'est en ça que je comprends que ça a été difficile pour moi. Mais en grandissant, j'ai jamais vraiment ressenti ce truc-là. Tu vois, ma mère venait me chercher à l'école. Après, je voyais les copains, il y avait leur père qui venait les chercher, tu vois. Moi, mon père venait jamais me chercher. Mais ça m'a jamais vraiment posé problème, tu vois. Mais c'est vraiment en grandissant que je comprends la nécessité d'aller chercher mon fils à l'école. Parce que c'est très important pour lui, tu vois. Il y a ce truc-là chez les enfants. Et c'est difficile. On s'en rend compte après. Mais on fait avec, tu vois. Il y a des gens qui n'ont même pas de mère. Donc, tu vois, moi, j'ai eu une mère. Pas eu de père présent, mais on a une bonne relation. Les anniversaires, on s'appelle de temps en temps. Donc, on a une bonne relation avec mon père. Et je lui souhaite tout le bonheur.
C'est un message à mon jeune moi pour lui dire que je suis bien conscient de tout ce qu'il a pu endurer, mais je lui en veux de ne pas avoir ouvert les yeux. C'est ce qu'on entend dans un autre titre.
Ouais.
Et là, on comprend que tu as habité par des regrets.
Ouais.
Lesquels notamment ?
Pas avoir vu la misère dans laquelle on était. C'est un regret pour moi parce que j'ai le sentiment que j'aurais pu faire quelque chose, même si en vrai, j'étais trop petit, tu vois, je pouvais rien faire. Mais je vivais et j'étais totalement inconscient de la réalité de la maison. J'étais inconscient du salaire que ma mère, elle gagnait rien en fait. Et ça, j'ai jamais vraiment su. Je l'ai su en grandissant, parce que entre adultes, on arrive à se parler, tu vois. Mais j'ai jamais vraiment pris conscience de toutes ces choses-là, toutes ces difficultés-là. Et c'est des trucs que je regrette parce que, au fond de moi, je me dis, mais oui, mais je suis un garçon, peut-être que j'aurais pu aider ma mère, j'aurais pu faire des trucs, tu vois. Et donc, il y a plein de regrets. Il y a aussi le fait d'avoir vécu chez ma sœur, elle avait un copain violent, et moi, j'étais petit, j'avais 8 ans, 8 ou 9 ans, et il me battait aussi. J'aurais aimé être un peu plus grand, pouvoir rendre les coups. Il y a plein de choses que je prends avec beaucoup de hauteur aujourd'hui, qui sont en vérité tristes, tu vois, que je prends avec beaucoup de hauteur aujourd'hui. Et voilà, c'est tout ça, ce sont des regrets que j'ai. Je me dis que avec quelques années en plus, j'aurais peut-être contribué au bonheur de la famille, tu vois.
Mais concrètement, qu'est-ce que tu aurais pu faire ?
La question que tu me poses, c'est une discussion que j'avais avec un grand frère et qui me disait, mais gars, quand t'as 9 ans, tu peux rien faire. Je dis, mais si, j'aurais pu rendre les coups, par exemple. Peut-être que si j'avais rendu les coups, il aurait arrêté de battre ma sœur, tu vois. Elle aurait été moins malheureuse. À la maison aussi, peut-être j'avais 3 ou 4 ans de plus, j'aurais pu aller, travailler quelque part. À 12, 13 ans, il y a bien des garçons de 12, 13 ans qui bossent, tu vois. J'aurais pu aller travailler quelque part et faire ma part à la maison, tu vois. C'est des trucs que je me dis. Je sais bien que dans les faits, c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe que ça, mais c'est quand même des questions que je me pose, tu vois.
C'est au-delà du compliqué, c'est du domaine de l'impossible. De vouloir être plus grand, tu n'as pas choisi ta date de naissance.
Ouais, j'ai pas choisi, mais je sais pas, j'avais quand même le sentiment un peu qu'il y avait un truc d'impuissance. Et cette impuissance-là, à la maison, peut-être que je ne l'ai pas ressenti parce que j'étais suffisamment inconscient. Mais par exemple, quand je vivais avec ma sœur, il y avait ce truc de, je me chauffais, je me disais, ok, aujourd'hui, s'il la tape, je saute dans le truc et j'y vais, tu vois. Et au moment où ça se passait, je me dégonflais parce que tu vois bien le bonhomme, tu vois bien que tu peux pas y aller. C'est des trucs comme ça. Et tu vois, ma sœur, elle a vécu des années difficiles, là, dans ces murs-là. Elle aurait peut-être, tu vois, elle s'est mariée, elle a divorcé. Peut-être que ça a eu un impact négatif sur sa psyché, tu vois. Et c'est plein de questions que je me pose. Est-ce que en m'interposant, ça aurait eu un impact réel sur sa vie, tu vois, sur sa façon de concevoir les relations de couple, etc.
La question que je me pose, c'est que quand je t'écoute et que tu me racontes ces histoires, on a l'impression que tu as été seul.
Il faut savoir un truc, c'est que moi, au moment où je vis chez ma sœur, je vis vraiment chez ma sœur. C'est-à-dire que ma mère ne travaille plus, donc elle perd son boulot, et elle me confie à ma sœur. Parce que mes frères sont maintenant en âge de se débrouiller, moi pas. Tu vois, je suis vraiment le dernier garçon. À ce moment-là, moi, mes frères peuvent venir intervenir pour moi. Et par exemple, si tu écoutes bien le morceau, je parle de mon neveu, qui, lui, pouvait rien faire. Genre, le fils de ma sœur, littéralement, pouvait rien faire. Quand lui aussi il se prenait des coups, moi, mes frères pouvaient venir me chercher chez ma sœur et dire, ah non, 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 on en a marre, on le récupère, toi tu gères ta vie avec ton gars et tout, machin. Mais mon neveu, qu'en est-il de lui? Il doit vivre ça au quotidien. Concrètement, j'aurais pas pu faire grand-chose, mais mes frères auraient pu se battre pour moi, ce qu'ils ont fait, tu vois. J'ai fait 2 ans chez ma sœur et après je suis rentré à la maison, je suis allé vivre les gars. J'étais, J'avais 10, 11 ans, j'étais suffisamment grand pour vivre les galères de la maison avec la famille, avec mes frères et ma mère. Mais tu vois, mon neveu, par exemple, je sais que ça l'a beaucoup, beaucoup affecté, tu vois. Donc ouais, c'est des réflexions, et c'était très difficile d'écrire ce morceau-là parce que ça fait remonter plein de choses dans ma tête, tu vois.
Est-ce que tes frères ont essayé d'aider ta sœur?
Oui, évidemment. Quand la famille a été au courant que c'était très violent et que c'était une situation compliquée, il y a eu des réunions de famille, ma sœur est définitivement partie de là, tu vois, donc il y a vraiment des choses qui se sont passées, mais ça a été long et ça a été difficile.
Vu qu'on parle de ces regrets qui sont... Voilà, c'est parce que tu as eu le sentiment que tu étais au mauvais endroit, au mauvais moment. Est-ce que, après coup, en devenant grand, adulte, tu as essayé de rattraper tout ça?
Pour moi, la meilleure façon de rattraper tout ça, c'est d'avoir une bonne relation avec les enfants de ma sœur, par exemple, qui ont vécu des moments difficiles, qui ont eu une enfance pas facile. Tu sais, moi, j'ai grandi en Afrique. On n'a pas la culture du psy. Donc, les problèmes, on les règle en famille et on les enterre. Sauf que ça continue d'être dans la tête, tu vois. Ça disparaît pas comme ça. Et il y a des traumatismes avec lesquels on grandit. Et moi, concrètement, c'est, tu vois, essayer de prendre soin de mes neveux et nièces, par exemple. Tu vois, les appeler. Même si là, en ce moment, je suis très occupé avec la musique, mais les appeler, tu vois. J'ai mon neveu au Sénégal. On s'appelle souvent. Il grandit, il a 18 ans. C'est le dernier de ma sœur. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui, moi, aujourd'hui, dans ma position, que je peux faire. Et autrement, je peux juste exorciser en musique, quoi.
On va parler de ton installation en France, à 18 ans.
Yes, 18, ouais, presque. J'étais chez une radio concurrente, là, il y a pas longtemps, et le gars m'a dit, t'es arrivé à 16 ans. J'ai dit, ouais, 16 ans, mais en fait, en re-regardant, je me suis dit, mais non, mais j'ai fait le calcul, le calcul était mauvais. Je suis arrivé un peu avant, je suis arrivé à mes 19 ans, en fait, à peu près, ouais.
Jeune adulte. À Montpellier.
Ouais. À Montpellier,
alors,
exact.
Comment ça passe? J'insiste sur le jeune adulte. Là, on arrive dans le sud de la France. Comment on arrive? Comment on se sent? Comment on arrive à se repérer?
J'ai une petite chance, c'est que ma sœur, une de mes sœurs, parce que j'ai deux sœurs, une de mes sœurs habite à Carcassonne et un de mes frères vit à Marseille. Donc, je suis vraiment pile au milieu, tu vois, une heure et demie des deux côtés. Et ils sont là quand même pour m'aiguiller, pour me dire, écoute. Ici, voilà comment ça fonctionne. Ça, tu peux faire. Ça, tu peux pas faire. Attention, hein, les transports, faut pas frauder parce que les amendes, nanana, tu vois. Mets-toi au diapason, sois correct, etc. Il y a la communauté gabonaise à Montpellier aussi, tu vois. Donc j'arrive à la fac, je rencontre des Gabonais qui sont sur place, ils m'aident avec l'intégration à la fac, et voilà, ça se passe bien. J'arrive à m'intégrer. La seule petite difficulté, c'est trouver un logement. Pour les étudiants, ça devient d'année en année, ça devient de plus en plus dur. Mais même pas que pour les étudiants étrangers, hein, même pour les étudiants franco-français, tu vois. C'est très, très difficile. Mais dans l'ensemble, ça s'est quand même assez bien passé. La solitude, c'est le moment où tu te dis, ah, je suis pas dans mon univers, j'ai pas mes copains, tu vois. C'est vraiment les seuls moments où tu es au plus bas. Mais sinon, ça s'est plutôt bien passé quand même.
S'il y avait quelque chose, un souvenir ou une personne de ton passé que tu aimerais faire revenir dans ton présent, ça serait quoi ou qui?
Ce serait ma grand-mère, partie trop tôt, emportée par la maladie. Enfin, trop tôt, non, elle avait bientôt 70 ans, mais je pense que j'aurais fait revenir ma grand-mère. Elle avait 73 ans, je crois.
Elle a pu assister à ton...
Non,
ton
pas
succès.
Du tout, pas du tout. Elle est partie 2 semaines après mon arrivée en France.
D'accord.
Attends. Donc, elle m'a vu partir, elle m'a clairement dit, écoute, tu pars, je ne serai pas là quand tu reviendras. Elle me l'a dit, parce qu'elle était malade et se sentait... je sais pas pourquoi, mais les anciens, ils ont ce truc-là, comme s'ils ont... Tu vois, ils voient des trucs. Je serai pas là quand tu reviendras. Donc va, ne te retourne pas, fais ce que tu as à faire.
C'est dur à encaisser quand même.
C'est dur à encaisser, mais tu vois, j'ai perdu tellement de gens autour que ce qu'il y a de plus dur, c'est qu'elle m'ait pas vu, entre guillemets, réussir. Même si j'aime pas ce truc de réussite. Mais je trouve que, tu vois, j'ai accompli quelque chose et j'aurais aimé qu'elle soit là pour être témoin de ça.
Benjamin, est-ce que tu peux me rappeler comment s'appelle ton premier EP sorti en 2020?
Le futur.
Alors, qu'est-ce qui t'inspire le futur?
Un peu d'espoir, un peu de crainte aussi. Crainte parce que tout ne se passe pas... Très bien, tu vois, il y a toujours eu des turpitudes, des choses comme ça, mais là, j'ai l'impression qu'on vit quand même une époque, je sais pas toi, il y a 10 ans, par exemple, le jeune toi, comment tu vivais le truc, mais j'ai le sentiment que, tu Tu vois, là, on vit un moment difficile, genre à tous les niveaux. Tu vois, il n'y a pas beaucoup de bonheur, quoi.
Non. Tu vois, pour répondre à ta question, il y a 10 ans, j'avais 17 ans. Donc j'étais en première. Et effectivement, c'était, si on prend 10 ans jour pour jour, on était entre l'attentat de Charlie Hebdo et entre l'attentat du Bataclan.
Waouh.
Voilà.
Oui, 2015. Exact.
Voilà. On sent qu'il y a quelque chose qui bascule. Je pense qu'à ce moment-là, je sentais un basculement. Je crois qu'en revanche, l'accélérateur, je pense que ça a été le premier acte. Le deuxième acte, ça a été le Covid.
Ah.
Mais avec un effet un peu bombardement, tu vois.
Tu penses qu'on vit vraiment, c'est-à-dire c'est un marqueur historique.
Oui. Et en fait, ce qui a été très pervers, c'est que il y a eu un effet qui se coule, en fait. C'est-à-dire qu'on est sorti, on a respiré, et puis après, derrière, ça nous a tapé sur le coin de la tête. On le voit manifestement dans le rapport aux gens, on peut plus se blairer,
ouais,
je trouve. Après, je ne sais pas si c'est parce que j'habite à Paris maintenant. Il y a ça, mais le rapport aux autres, aux relations, aux normes sociales.
Oui, moi, en tout cas, je ressens la même chose. Je n'avais pas forcément pensé à la Covid comme à un moment charnière, tu vois. Mais je vois bien qu'il y a quelque chose. On vit une époque, il y a quelque chose. Tu vois, il y a un truc, c'est désorganisé, les gens ne s'entendent pas, les gens se séparent, tu vois, il y a un truc, il y a quelque chose qui se délite, quoi. Je le sens, en tout cas, tu vois, je sens que les gens sont à bout, tu sens que les gens sont à bout. Tu le vois, tu l'entends. Je sais pas si les médias, c'est vraiment un vrai pouls, tu vois, parce qu'il y a des choses qui sont un peu exagérées, il y a des biais idéologiques, c'est-à-dire qu'on va vers des situations, on va prendre ce qu'on a envie de prendre et on oublie sciemment ce qu'on veut pas montrer, tu vois. Mais il y a quand même une réalité, c'est qu'il y a même dans les liens sociaux, tout à l'heure t'en parlais, les liens qu'on entretient entre nous, bah les portables, regarde, typiquement. Moi, je vois bien entre aujourd'hui et il y a 10 ans, quand je suis arrivé, je pense que la Covid a accentué le truc de je suis sur mon portable. Okay. J'étais pas autant sur mon portable quand je suis arrivé, il y a 10 ans. Je vivais, tu vois. Je sortais, je faisais plus de trucs. Bon, après, j'ai grandi, tu vois, j'ai plus forcément les mêmes amis, plus les mêmes centres d'intérêt, mais je me sens quand même un peu plus recroquevillé sur moi, tu vois. Et je pense qu'effectivement, il y a de ça. Post-Covid, il s'est passé un truc, c'est on a quand même vécu un an de solitude. T'imagines les gens qui vivaient à Paris, dans les appartements.
Mmh.
Moi, ça va, je vis un peu à la campagne et tout, je peux sortir et tout, il y a personne à 2-3 kilomètres à la ronde, mais gros, ça a été difficile, vraiment difficile pour plein de gens, tu vois. Je pense qu'il y a de ça. Effectivement, j'y avais pas pensé encore, mais effectivement, je pense que la Covid a vraiment été un marqueur, quoi.
Surtout qu'il n'y a pas eu de réhabilitation, quoi. On est entré en confinement, comme on en est ressorti. Il n'y a pas eu de transition.
D'accompagnement, ouais. Ouais, exact.
Il y a un début, une fin. Débrouillez-vous.
Exactement.
Parce que la technologie, il est pour beaucoup, elle n'est pas prête de nous
lâcher.
Parce qu'il y a eu les portables, on a commencé à se rendre compte que peut-être qu'il fallait se déconnecter. Et l'intelligence artificielle est arrivée.
Aïe, 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 aïe. Moi, je disais, je ne sais pas si c'est avec mon manager que j'ai dit la conversation, mais je disais, allez, je me laisse 5-6 ans. Pourtant, ce n'était pas dans mes plans, hein, mais 5-6 ans pour faire le maximum de musique et après, j'arrête. Parce que je suis sûr que dans 10 ans, on n'aura plus besoin de nous. Regarde, typiquement, tu as un morceau Maître Gims et Booba, un morceau imaginaire qui a été fait avec l'IA. Et qui a quoi? Des millions de streams. Des millions de streams. On n'aura plus besoin de nous. Dans 10 ans, les artistes terminés.
Et il y a beaucoup de gens qui disent, je ne sais pas si c'est de naïveté ou de l'optimisme, souvent la frontière est fine, mais qui disent, dans l'art, il y a quand même c'est la motivation humaine qui va jouer. Et en fait, moi, ce que je dis, c'est que oui, mais les gens ne sont pas là pour l'art. Hein.
Exact.
Ils sont là pour se divertir et pour consommer.
Exact.
Donc, qu'importe.
Qu'importe. T'as vu la nouvelle IA de Google?
VO.
Gros, bientôt, je n'aurai plus besoin d'être en face de toi. C'est-à-dire, moi, je vais me poser là, ou peut-être que je serai chez moi, et on va créer un truc, un programme qui fait que je me pose là devant toi, et la caméra fait comme si on était dans la même pièce. Ce sera plus toi. Je vais parler au micro, et ce sera une intelligence artificielle qui répondra à mes questions. Et si ça se trouve, la station, elle n'aura plus besoin de toi.
Oh, c'est très probable aussi.
Et peut-être qu'elle aura plus besoin de moi. En fait, c'est des intelligences artificielles qui vont se parler entre elles. Moi, je dis, OK, moi, je crée mon IA. Mon IA s'appelle Benjamin Epps. Je dis à mon IA, promo, énergie web, radio, tel jour. Bim, propos, l'enfant sacré de Bellevue, volume 2, discussion, paf. Et puis il y a deux IA qui communiquent entre elles. Tu vois comment ça fait peur ?
Bah bien sûr, on verra bien, si on sera là pour le voir.
Futur.
Nous arrivons à la dernière partie de l'émission. Benjamin, je demande à toutes les personnes qui t'accompagnent de quitter ce studio.
Yes, let's go.
Je vais déclencher la capsule, tu seras complètement seul pendant une minute, l'occasion de te confier sur le sujet de ton choix. Déclenchement de la capsule dans 10 secondes, et moi je te dis au revoir Benjamin.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, open the capsule.
Jeune artiste, toi qui m'écoutes, toi qui démarres dans la musique, je sais l'enthousiasme qui t'habite, les gens commencent à reconnaître ta musique, à te reconnaître quand tu marches, à regarder tes clips, à te suivre sur les réseaux sociaux. Tu es dans la phase wow, c'est-à-dire que tout le monde t'adule et tout le monde adore ce que tu fais. Ça, c'est la meilleure phase que puisse vivre un artiste, la découverte. Profite de ce moment-là au maximum, profite des sollicitations, profite des accolades, parce que ça dure un temps, et quand ça s'en va, ça ne revient jamais, le sentiment d'être nouveau et de démarrer quelque chose. Alors force, c'était Benjamin Epps.